trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Raphaël Thuin est avec nous, le responsable des stratégies de marché de capitaux de Tikeo Capital. Bonsoir Raphaël.
Bonsoir Edouard.
Éric Bertrand nous accompagne également, directeur de gestion d'Ophi Invest Asset Management. Bonsoir Éric.
Bonsoir.
Et Alain Pitous à nos côtés également, senior advisor ESG. Bonsoir Alain.
Bonsoir.
Merci d'être là messieurs, ravi de vous retrouver tous les trois. C'est donc le jour d'investiture de Donald Trump, Raphaël. Qu'est-ce qu'on attend de ce Day One, en tout cas des premières décisions, des premières mesures, des premiers décrets qui vont être signés par Donald Trump? Quelles sont les réponses que vous attendez aux questions que vous vous posez, j'imagine, encore aujourd'hui, avec l'entrée en fonction de Donald Trump pour ce deuxième mandat?
Énormément de questions, vous avez raison de le dire. On aura un certain nombre de réponses ou pas d'ailleurs, mais le président Trump, dorénavant président Trump, a annoncé un rythme très accéléré pour son entrée en fonction, beaucoup de décrets présidentiels à attendre, un capital politique qui est gigantesque, en tout cas pour l'instant. Depuis son élection, on l'a vu, il a eu plusieurs victoires politiques, de nomination de son cabinet. On peut parler de victoires politiques aussi quand on regarde les ralliements à sa cause, y compris dans le monde corporate aux États-Unis. On va parler peut-être de Gaza aussi, pour lequel une partie du crédit lui est due. Donc il y a un vrai élan trumpien aujourd'hui aux États-Unis. Et donc c'est sur cette dynamique-là qu'il va pouvoir surfer peut-être avec des décrets. Il veut agir vite, il l'a dit. Un capital politique qu'il veut consommer maintenant. Et sur des thématiques alors qu'on croit deviner. C'est vrai qu'il a une contrainte constitutionnelle, dirons-nous, vis-à-vis de certaines thématiques plus que d'autres. Mm-hmm. On sait que, par exemple, sur l'immigration, sur les droits de douane, il a davantage de latitude à agir. Là où sur la fiscalité, la déréglementation, il va avoir besoin du Congrès. Donc s'il doit aller vite, on peut imaginer que ça sera sur ces thématiques-là. Donc les droits de douane, la Chine, le Mexique, le Canada sont clairement au menu de l'ogre Trump. Dans quel ordre on verra, avec quelle intensité, quelle sévérité, ça reste encore à découvrir dans les jours qui viennent. Pauline Gratel parlait d'un article du Wall Street Journal qui semblait un petit peu tempérer les inquiétudes. On verra, mais effectivement, clairement, il est dans son mandat et on s'attend à des annonces fortes dans les jours qui viennent. Et puis sur l'immigration aussi, on a des articles de presse qui parlent de raids, d'expulsion, en particulier dans ces villes démocrates refuges qui accueillent beaucoup d'immigrants illégaux. La thématique immigration, pour le candidat Trump, c'était une thématique clé pour son électorat. Il doit agir, il considère qu'il est dans son mandat à agir. Et dans ces conditions, on s'attend aussi à des grandes annonces, des grands coups de force. Donc une première semaine qui sera probablement très chargée.
Ouais, effectivement. On comprend que l'idée, il y a une idée de séquence qui va être sans doute importante à suivre. Éric, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors c'est vrai que le papier du Wall Street Journal, on verra ce qu'il en est à travers les premiers décrets. Il veut signer quoi, une centaine de décrets, je crois, dans ses premiers jours d'installation à la Maison Blanche. Mais on comprend par exemple que la politique tarifaire va peut-être justifier un moment de réflexion ou d'évaluation avant d'en venir peut-être aux actes. Quand il y a encore quelques semaines ou quelques mois, on se disait que les premières executive orders qu'il allait signer, c'était tarifs pour tous et chacun pour soi, quoi. Et finalement, on voit que la séquence peut aussi s'adapter à la situation.
Alors, et un point qui est intéressant, quand on regarde Trump sur la grande longueur, si on regarde tout ce que dit Trump depuis 20 ans, alors au début c'était dans des sitcoms, maintenant c'est à la Maison Blanche, mesure le chemin parcouru, il y a deux totems qui sont très importants pour lui. Il veut faire des affaires et il veut gagner de l'argent aux États-Unis. Qu'est-ce qui n'est pas bon pour les affaires? C'est la guerre. Et c'est une forme de protectionnisme, j'ai pas envie de trop concurrencer. Donc ça, c'est ses racines profondes. Après, il faut se faire élire. Il a bien senti que les thématiques d'immigration et de régulation étaient porteuses, on va dire, dans le sillage d'une régulation, dans le sillage d'une fin d'inflation, qu'on doit pourtant mettre au crédit de Biden et de la Fed. C'est vrai que dans son Art of Deal, puisque il en est l'auteur, les droits de douane n'apparaissent plus aujourd'hui comme un totem qui va vendre à l'Américain moyen qui s'inquiète du prix des œufs, mais comme des outils de négociation sur d'autres tables et sur d'autres terrains. Il y a donc fort à parier qu'effectivement, déjà on était passé de 60% à 10 et 25%, hein, je rappelle, il y a déjà une première décrue. Ah ouais. il y a fort à parier qu'il va mettre des choses sur la table, mais va prendre son temps pour les négocier. Il faut reprendre la séquence de 2018-2019, où il y avait eu beaucoup de négos. Tout s'était pas fait en un jour, et plein de choses avaient été négociées avant que finalement, pas tout à fait arrivé.
Je me souviens, il y avait le phase one deal avec la Chine, hein, le deal de phase 1, c'était les produits agricoles, c'était plein de choses comme
après,
ça.
Après, il y a les ripostes, etc. Et il sait que ça, c'est pas forcément très très bon pour le business. Donc il va faire des choses, mais ça va être des outils de négociation pour influer sur d'autres sujets. Et donc on peut attendre que là, il y ait des choses assez simples, qui soient assez pro-business, c'est assez emblématique. Sur l'immigration, le sujet, il est social, mais du point de vue des marchés financiers, c'est le risque de ne plus assez avoir de force de travail pour porter un emploi américain qui reste tendu. Et bah, si on enlève des travailleurs, la croissance, son potentiel, il diminuera forcément. Il y aura sûrement de l'emblématique. De là à ce qu'il y ait vraiment du structurel lourd, ça va prendre sans doute un peu plus de temps, ne serait-ce que pratiquement. Il y aura sûrement des incantations sur la dérégulation. On peut assez rapidement ouvrir des vannes qualitatives. Ça a été très brillamment évoqué, il y a tout un tas de sujets, il aura besoin du Congrès pour que ça se nourrit d'effets. Et donc là, on va vraiment rentrer pour moi dans cette phase où on passe d'énormément de promesses à du concret, avec quelqu'un qui est quand même tenu par son parti. Il faut bien voir que la tech a fait, dans le sillage d'Elon Musk, un U-turn assez impressionnant. Il y a un certain nombre d'entreprises qui ont envie de croire dans Corporate America. Va falloir qu'il faut pas que ce qu'il donne d'une main, il le reprenne de l'autre. Il est quand même très centré sur la croissance, l'emploi aux États-Unis. Il faut pas que l'inflation vienne jouer le perturbateur. C'est aussi l'inflation qui l'a fait élire dans la perception des votants sous Biden. Donc, on va rentrer dans la phase des faits. Et, on a acheté beaucoup de rumeurs. Donc maintenant, je pense que dans les mois qui viennent, on va avoir une volatilité qui risque peut-être un peu de décevoir, mais c'est peut-être déjà un peu dans les cours sur Trump. Et on va surtout regarder les résultats de l'économie, de la croissance, les résultats des entreprises. Donc certainement de la volatilité et un début de désenchantement sûrement de l'ère Trump.
On peut imaginer que le marché se mette à détricoter au moins en partie ce qu'on a appelé les Trump trades des dernières semaines et des derniers mois.
Alors sur certains secteurs, sans doute plus que d'autres, parce que sur l'énergie, aller très rapidement ouvrir des vannes environnementales pour permettre de drill baby drill, si j'ai bien suivi les meetings objectif, de campagne, ça peut porter certains secteurs. Au détriment de la planète, hélas. Effectivement, une sorte de peut-être de désenchantement à venir, mais il faut bien voir que l'enchantement avait produit comme corollaire de l'inflation, de la Fed, un 10 ans américain à 4,80. Donc,
d'accord.
Ça va être comme dans l'ascension, il va falloir voir maintenant la séquence qu'il va produire, mais qui sera peut-être pas aussi caricaturale que ce qu'a été sa campagne, et sans doute plus orientée business, à mon avis.
Bon. Un des mouvements du jour, c'est quand même la baisse du dollar. Une baisse de plus de 1% du dollar face à un ensemble de devises. Alors, je ne sais pas, on verra ce qu'il en est du papier du Wall Street Journal, s'il se retrouve confirmé ou infirmé. Mais en tout cas, ça montre la sensibilité du marché sur cette question des tarifs douaniers, par exemple. Alain, sur Trump.
En fait, j'ai rien à dire de plus que ce qu'on dit Raphaël Éric, qui était très bien dit, je ne pourrais pas faire mieux. Mais moi, j'essaie de me concentrer sur ce qui peut se passer en bourse et les marqueurs qui pourrait faire bouger cette bourse dans les semaines qui viennent, parce qu'il va y avoir beaucoup de bruit. C'est quelque chose dont on est à peu près sûr. Et on a parfois du mal à distinguer ce qui est politique américaine, l'histoire des transgenres, l'immigration, qui est quand même un peu un sujet américain malgré tout, même si ça peut avoir un effet sur l'emploi, comme le disait Eric. Il y a des choses qui sont très nettement, très positives pour les marchés boursiers. La baisse de la fiscalité pour les entreprises, ça c'est quand même quelque chose dont on n'entend plus parler, mais c'est quand même un fait énorme, parce que ça a un impact direct sur les résultats, donc ça c'est quand même plutôt bon. Il y a la déréglementation, essentiellement pour le monde bancaire. Après, ça peut avoir des conséquences sur le crédit, ça peut avoir des conséquences sur plein de choses, mais à court terme, c'est plutôt vécu comme quelque chose de plutôt positif. Et puis les deux marqueurs forts, ce sera les taux, la tête des taux et le niveau du dollar qui vont, parce qu'on le voit déjà avec une petite baisse du dollar, la flambée, la flambée qu'on a eue depuis 2-3 jours sur les marchés boursiers.
On a vu la même répétition il y a 2 semaines, pareil, sur un article de presse qui parlait de tarifs un peu ciblés sur des secteurs stratégiques. On avait vu tout de suite la réaction du reste du monde face à ce genre de nouvelles.
Et puis là, il y a vraiment, ça serait un marqueur fort pour les pays émergents, pour la Chine, pour l'Europe même. Si ça pouvait se calmer sur les devises, ça fait quand même un appel d'air qui est extrêmement important. il y a ça. Et puis, on peut avoir un petit, si un petit quelque chose de très positif pour l'Europe, ce serait si jamais il y avait une résolution à peu près dans l'ordre de la crise ukrainienne. Et alors, je n'ai pas d'avis là-dessus. Enfin, je ne peux pas le donner ici, mais il est peut-être pas forcément celui que vous croyez. Mais
on parle d'avis qui reste dans l'univers de l'investissement.
Voilà, c'est ça, exactement.
C'est le périmètre. Voilà.
Donc, mais ça pourrait se résoudre et ouais. Ça pourrait être assez positif pour les marchés, même si ça serait peut-être pas très bon pour les valeurs de défense pendant quelques semaines. Et puis, il y a quelque chose qui finit par nous concerner aussi. Hein. Aujourd'hui, c'est Journay qui a annoncé quand même qu'on allait probablement mettre un terme à la CSRD. C'est quand même un truc.
On parle de Stéphane. Ces journées, c'est
oui,
ça c'est d'accord. Ça. Non, il faut préciser peut-être.
Pardon,
oui, oui, parce que ces journées, oui, d'accord. Oui, ok, Stéphane, ces journées.
Excusez-moi,
donc,
excusez-moi.
Oui, oui. Et qui est, rappelez-nous, pardon,
à l'arrêt. C'est celui qui a remplacé Breton, pour faire simple.
Oui, c'est ça, il est commissaire européen voilà, aujourd'hui. Oui, c'est ça. Voilà. Pardon. Non, non, c'est le ça bouge tellement vite aussi de ce côté-là, d'accord.
Enfin, quelquefois, Breton est resté quand même un moment. Et donc, bon, là aussi, il pourrait y avoir quelques changements qui peut-être donneraient un peu de visibilité à certains industriels. Imaginons qu'on repousse aussi l'histoire des voitures électriques. On se retrouverait avec un contexte européen qui serait peut-être un peu différent. Là aussi, je prêche pas pour ma paroisse. Hein, c'est quelque chose qui est. Oui, mais en fait,
moi, ça m'intéresse. Ouais. Enfin, ce serait. Comment vous jugez ça ? C'est-à-dire, si l'Europe effectivement mettait un peu d'eau dans son vin pour s'adapter à une réalité ESG trumpiste. Oui, c'est de pas trop s'écarter de la volonté trumpiste. Enfin, ouais. C'est bien, c'est pas bien en termes de business, en termes d'investissement.
En fait, si vous voulez, ce qui est en train de se passer, enfin moi, je pense, hein, ça fait quelque chose qui vient depuis une quinzaine de mois à peu près. Hein, c'est l'évolution autour de l'ESG qui change d'un univers de data assez difficile à quantifier, qualifier clairement, à quelque chose qui sera plus à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire que on a peut-être moins d'ambition, mais sur des données
plus objectif. Plus tangible.
Ouais,
d'accord.
Et on vient sur quelque chose qui est aussi la réalité, c'est qu'est-ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est la décarbonation. Donc, et c'est ça l'enjeu aujourd'hui des investissements, même aux États-Unis, des investissements qui sont faits dans ce segment-là. Donc tout ça, c'est un contexte qui peut libérer un peu d'investissement pour aller sur les marchés de manière peut-être un peu philosophiquement moins sympathique. Hein. L'ESG, c'est quelque chose qui est. J'emploie le passé parce que je pense que cet ESG va évoluer assez fortement pour revenir vers quelque chose qui est plus à l'américaine. Parce que si vous regardez, hein, l'endroit où il y a le plus d'investissement vert, c'est le Texas. C'est paradoxal, mais c'est quand même comme ça. Donc voilà, on va, je pense, vers ça. Donc tout ce contexte fait que, vous savez, on est sur beaucoup de segments, sur des endroits. Vous regardez la dette émergente, l'émergent, les value, les small caps. C'est des endroits qu'on est vraiment très, très, très loin en termes de sous-valorisation. On cherche le driver. Bah, c'est peut-être un peu d'ouverture, de changement de réglementation qui fait ce détonateur. Et avec une baisse du dollar, que je ne vois pas aujourd'hui, mais pourquoi pas. Hein,
aujourd'hui, on la voit en l'occurrence,
oui,
mais vous ne la voyez pas se prolonger, j'entends.
Globalement, ça fait un moment qu'il y a des tensions sur le dollar. Voilà, donc tout ça pour dire que c'est peut-être le moment où il peut y avoir un changement. Et on le voit d'ailleurs, l'Europe surperforme depuis quelques jours. Peut-être que c'est le moment.
Voilà. Et même en dollar, puisque l'euro est en train de remonter face au dollar.
Le moment européen, c'est maintenant.
Ça m'intéresse, et puis c'est un thème que vous exploitez sur le plan de l'investissement en profondeur chez Tikeo, Raphaël, l'idée d'une réponse de l'Europe, ou en tout cas d'une réaction, d'une adaptation de l'Europe à des choix de politique publique américains sous l'ère Trump, alors sur le plan ESG ou de la transition, sur le plan de la défense aussi, ça peut être des implications bénéfiques pour nous en Europe ?
En tout cas, on peut imaginer qu'effectivement, face au mur, une nouvelle fois, l'Europe sache se ressaisir. On commence à voir le début d'une construction de consensus autour de certaines de ces thématiques. La compétitivité en est une, et le rapport Draghi a beaucoup aidé, beaucoup allé dans ce sens. La transition énergétique, il y a aussi un consensus politique pour l'accompagner en Europe, la renforcer. On peut parler dans une certaine mesure d'une défense commune aussi. On peut parler de l'union des marchés de capitaux. Dans le brouhaha actuel, l'instabilité politique qui nous caractérise et qui, j'espère, n'est pas amenée à perdurer pour toujours.
Il y a des boussoles quand même.
Il y a des boussoles.
Ouais, c'est ça.
D'ailleurs, à travers aussi un couple franco-allemand qui aussi trouve matière à converger. Donc on peut imaginer qu'une fois que cette séquence politique instable se dissipe, on puisse continuer à converger sur ces grandes matières de consensus. Donc ça nous intéresse. C'est clairement une thématique d'investissement sur la défense. On a des très belles entreprises européennes, très sous-cotées, traditionnellement moitié moins cher en valorisation que leur équivalente américaine. On a envie de regarder ce qui se passe.
Et un cessez-le-feu qui serait mis en place, imposé par un Donald Trump, alors pas pour Day One, on comprend, entre la Russie et l'Ukraine, mais peut-être dans les prochains mois, ça ne devrait pas logiquement être si pénalisant pour ce secteur de la défense en Europe qui est en train de connaître une forme de, d'éveil ou de réveil boursier qu'on n'imaginait pas il y a encore quelques années.
Non, on considère que là, on est sur une méga tendance long terme qui va bien au-delà de cette dimension ukrainienne, à savoir que pour des entreprises comme Rheinmetall, Dassault, Thales, Airbus, Safran, on est sur des problématiques de capacité de production plutôt que des problématiques de demande. Les carnets d'ordre sont pleins sur les années à venir. Et aujourd'hui, c'est plus faire face à cette capacité de production, l'augmenter. On a vu effectivement des valeurs qui sont très décotées, qui ont certes rebondi sur les mois précédents, mais qui partaient d'une base très basse. Mmh. Elles ont été les mal-aimées des marchés pendant plusieurs années, en particulier à travers cette vague ESG qui les a pénalisées. Donc aujourd'hui, vous avez des valeurs qui ne sont pas très chères, sur lesquelles on peut avoir des perspectives de croissance des bénéfices, encore une fois des carnets de très importants, et de re-rating des valorisations, à savoir un renchérissement des niveaux de valo du fait qu'elles sont aujourd'hui très peu chères. Mmh. Donc ça attire l'œil, et effectivement, quand vous parlez à ces entreprises, Rheinmetall, aujourd'hui, c'est des carnets de commandes à rallonge. L'OTAN préconise entre 30 et 60 jours de munitions pour les pays membres dans un scénario de guerre à haute intensité. La moyenne en Europe, c'est 3 jours. Quand vous parlez du Rafale, on connaît les carnets d'ordre. On est vraiment sur une thématique d'augmenter les productions. Airbus aussi n'a pas de problème de demande. Donc, vous voyez qu'on est vraiment manifestement sur des perspectives de croissance de bénéfices. Donc, plus de bénéfices et des perspectives de renchérissement en termes de valorisation, c'est souvent un cocktail intéressant pour l'investisseur long terme.
Et sur la partie transition, là, je rebondis un peu sur ce que disait Alain, il faut quand même envisager une modification des règles. Alors, l'exemple de l'arrêt du véhicule thermique, effectivement, est assez emblématique et cristallise beaucoup
Peut-être pas l'arrêt, mais disons un décalage sur les obligations.
Ouais. Je sais pas, c'était le papier du FT ce week-end qui nous dit que si on maintient les amendes qui devraient être payées par les constructeurs assembleurs automobiles européens l'an prochain pour chaque dépassement de grammes de CO2 émis par chaque véhicule, il va falloir qu'on se mette à acheter des crédits carbone à BYD. C'est ce à quoi pourrait conduire la réglementation européenne dès l'an prochain.
J'allais le dire.
Acheter pour des millions de dollars ou de yuan ou de je ne sais quoi des crédits carbone à BYD.
Oui, on est persuadé que ça reste une thématique d'investissement, la transition énergétique incontournable. On investit beaucoup, vous nous connaissez dessus. On a plus de 3 milliards de fonds impact, on a des fonds de private equity sur l'agriculture régénératrice, sur la transition énergétique. Et clairement, aujourd'hui, quand vous regardez les entreprises une à une, cette dimension, capacité de s'adapter dans un monde qui change et à embrasser cette transition énergétique est un facteur de performance. Qu'à voir ce qui se passe en Californie aujourd'hui, sur les assureurs, quand on fait de l'immobilier, voilà, c'est vraiment une thématique qui est incontournable. Le fait est, en revanche, qu'il y a eu un désenchantement, en particulier de beaucoup de clients qui considèrent qu'ils ont été déçus, qui ne comprennent plus de quoi ils en retournent, qui ne comprennent plus la régulation. Donc, une thématique long terme, oui, mais aujourd'hui, on a une crise de croissance, peut-être, un point de maturité à atteindre dans laquelle l'industrie n'est pas encore vraiment complètement plongée.
Très intéressant, super sujet, ça.
Eric. Il y a deux points qui sont très importants. Je rebondis sur les propos de Raphaël. Comme d'habitude, on a emmené le balancier trop loin. C'est-à-dire qu'on se rend compte que dans la finance responsable, il y a une responsabilité environnementale, sociétale, gouvernante, mais aussi une responsabilité fiduciaire. Et on a oublié un peu le fiduciaire, et la réglementation s'est empilée et est allée trop loin. C'est-à-dire que maintenant, quand vous prenez CSRD, SFDR, les labels V3, les catégories, le ESMA Fund Naming, à la fin, j'achète quoi dans mon portefeuille et est-ce qu'on parle encore de perf? Premier point. Le deuxième point, c'est que après une très belle séquence post-Covid sur les valeurs promues par l'ESG, sortie de Covid, guerre en Ukraine, énergie, défense, il y a eu un atterrissage au global du facteur ESG qui a coûté en perf. Derrière, pour terminer l'équation, on a un momentum de step back qu'on voit très bien aux États-Unis où l'ESG était devenu un combat politique plus qu'une réalité environnementale et environnemental et risque. Voilà, c'est là où
risque,
je voulais en arriver,
d'accord.
Du point de vue du risque. Et c'est vrai que revenir un peu à la raison est tout à fait sain, mais je partage complètement ce qui vient d'être dit. Je nous parie, on va avoir des fonds sur l'océan, sur la méthanisation, sur des valeurs qui portent beaucoup plus de risques parce qu'elles ne sont pas suffisamment adaptées à ce qui va arriver. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut oublier la performance sur la partie longue des portefeuilles. Alors certes, on va avoir un BlackRock qui sort de la NZAO, la Fed qui sort du groupe...
Toutes les alliances net zéro, hein, tout bancaire, asset owner, etc. La Fed sort des alliances, des institutions net zéro.
Globalement, les gens continuent de travailler dessus. Moi, j'opposerais un peu à ça les actuaires britanniques, qui ne sont pas vraiment les plus comiques du monde, viennent de sortir un papier qui est assez intéressant, expliquant qu'on ne mesure pas aujourd'hui assez dans la prise de risque les interconnexions avec un risque de coagulation des différents risques qui nous arrivent. Et ça, c'est du point de vue financier, risque. Et à mon avis, je pense que ça, c'est la raison. Ça milite pour des investissements responsables, mesurés, où on embarque des risques. Mais très clairement, ça ne veut pas dire qu'il faut complètement sortir de ce secteur-là.
Mais même avec Trump, l'idée, ce n'est pas d'abandonner l'ESG, c'est une adaptation de la pratique ESG, c'est ça qu'il faut décrire, Eric. Il n'y a pas de capitulation sur l'idée de la décarbonation, l'idée de la transition, des transitions, etc. Il n'y a pas de... Parce que le discours de Trump enfonce... ou porte en tout cas l'estocade vraiment directement sur ces sujets-là. L'électrique, les éoliennes, c'est destructeur, l'électrique, on va arrêter, etc. Évidemment, le premier fabricant de panneaux solaires hors chinois, c'est un Américain, c'est First Solar. Le Texas, tout pétrole, tout gavé de pétrole qu'il est, et c'est le premier producteur et générateur d'énergie renouvelable aujourd'hui aux États-Unis et dans le monde.
Je pense qu'il faut faire confiance aux entreprises.
Bah oui.
Quand on voit les investissements dans le vert d'un Total notamment, il a très bien...
Pour l'investisseur, ça reste une thèse qu'on ne peut pas abandonner.
Ça reste une thèse qu'il faut aborder sous l'angle du risque, de la capacité à muter, pour ne pas se retrouver avec des actifs un peu compliqué d'ici 5 ou 10 ans, sachant qu'on va avoir des successions de problèmes qui vont s'enchaîner les uns les autres. Hein. Le risque de pénurie au sens production, au sens transport, au sens énergie, au sens population, peut se coaguler. Donc, on passe de les gants blancs, l'étendard, le porte-drapeau, Don Quichotte et les moulins, et on revient à une forme de rationalité où est mon risque, pourquoi j'engage, où est mon intérêt financier, porteur de risque, et aligné avec des transitions qui vont avoir lieu, que Trump soit d'accord ou pas.
Si j'essaye d'avoir une vue positive, Alain, c'est vrai qu'on voit ces grandes alliances net zéro qui avaient suscité beaucoup d'enthousiasme. Alors bon, c'était des horizons 2050, faciles à signer tout de suite sur le papier, j'imagine. Hein. Mmh. Et puis effectivement, au fur et à mesure, on voit que tout ça se délite. Pour autant, il y a encore évidemment beaucoup d'intérêt pour investir dans ces enjeux de transition, dans l'ESG. Et même, j'ai envie de dire, on trouve de plus en plus d'arguments pour le faire. Au-delà de l'argument « c'est bon pour la planète », on a l'argument de la compétitivité, l'argument de la souveraineté, l'argument de la santé aussi, peut-être dans un pays comme la Chine, avec un niveau de pollution qui devient quand même assez délétère. On trouve plein de bonnes raisons désormais de le faire, alors qu'avant, il y avait l'idée qu'il fallait sauver la planète, quoi.
Ouais, si on reprend la rationalité comme fer de lance de ces investissements-là, faut regarder ce que font les Chinois. Vous regardez les Chinois il y a 15 ans, quand ils vous évoquaient net zéro, ils parlaient d'un truc pour la génération après Xi Jinping, quoi. C'était après 2049, mais bien après, quoi. Vous regardez les investissements qui sont faits sur ce segment-là en ce moment, ils sont leaders. Alors c'est pour ça que je pense que Trump, à un moment donné, on va lui mettre des petites notes, alors pas trop longues, hein, avec des dessins pour lui dire Monsieur Trump, regardez les Chinois, ils sont devant nous sur ce truc-là, ils sont en train de devenir...
Ça, il ne va pas aimer ça.
Ah ça, il ne va pas aimer du tout. Et il va d'autant moins aimer que déjà autour de lui, excuse-moi, je n'ai pas noté...
Ouais, on n'a pas encore les noms de tout le monde.
Qui évoquait hier, ou avant-hier, dans son débat pour être intronisé, qui disait il faut qu'on ait de l'énergie pour notre IA, sinon c'est les Chinois qui vont le faire et les Chinois vont prendre de l'avance sur l'IA.
Voilà.
Et donc,
Trump trouvera une raison de faire de l'énergie décarbonée pour son IA.
Ils vont à fond sur le gaz pour parer au plus pressé, mais c'est aussi des gros investisseurs nucléaires, c'est des gros investisseurs dans le renouvelable. Et puis un truc, c'est pareil, ça passe un peu inaperçu. inaperçu dans le brouhaha qu'on a. Et c'est un peu terrible la période actuelle, parce qu'il y a vraiment beaucoup de bruit sur tous ces sujets-là. Parce qu'on confond les trucs anti-woke des États, les procès contre les problèmes fiduciaires de BlackRock sur un malheureux compte au Texas. Mais ils investissent massivement sur la batterie. Et ça, c'est un vrai sujet. Puis je ne parle pas des batteries pour le téléphone, hein. Je parle des batteries industrielles pour stocker de l'énergie renouvelable pour utiliser à haute dose demain. Donc c'est en train de changer et eux, ils sont rationnels, tous ces gens-là. Ils font ça parce que ça gagne de l'argent et parce qu'ils ont une visibilité de rentabilité pour rentabilité pour l'entreprise puis pour leurs actionnaires. C'est pas, vraiment pas de la poésie. Donc ce truc-là, cette finance-là, oui, j'y crois beaucoup. Après, le truc où on va arrêter, je prends l'exemple de l'investisseur qui se retrouve dans un fonds Action européenne où on lui empêche d'acheter du LVMH pour un problème de gouvernance. Oui. Enfin,
c'est coché problème, toutes quoi. Les cases de l'ESG pour au final ne pas avoir de LVMH ou ne pas pouvoir avoir
pour
de LVMH
raison,
dans un fonds.
Parce qu'on décale une note, ça peut, c'est pas sérieux. Quoi. Donc cet ESG-là, effectivement, il en a un petit coup derrière les oreilles, mais la finance de demain qui est vraiment importante pour la planète, lui, ça, je pense que. Ça, c'est le sens des réalités. Autant le sens des réalités. Versus ESG, effectivement, a balayé ça, mais faut pas se tromper non plus. Et attention, hein, l'équipe Trump et compagnie, si leur but c'est juste faire drill baby drill, les lendemains qui déchantent vont faire très très mal.
On verra.
On n'y est pas là. Hein, mais
les pétroliers cheese, déjà, eux, ils sont quand même très focus sur la génération de cash flow désormais. Donc Trump peut toujours leur tordre le bras, etc.
Ils vont fusionner.
Et puis on m'a expliqué, un excellent expert matières premières qui s'appelle Benjamin Louvet m'a expliqué que faire 3 millions de barils le jour supplémentaires en termes de production, comme le veut Scott Bessent, géologiquement, c'est compliqué.
Ça passe en 5 minutes, il faut retrouver.
Voilà. Donc, bon, il y a aussi des limites physiques au drill, baby drill, physique et financière, même, j'ai envie de dire, au drill, baby drill de Trump. Un mot peut-être des banques centrales et de la Fed dans ce contexte, avec un pricing qui a encore beaucoup évolué, un marché qui anticipe d'ailleurs une forme d'inaction de la Fed, désormais, partant de ce 20 janvier 2025. Raphaël, comment vous regardez ce renversement, ce revirement à nouveau en matière d'anticipation de baisse de taux ou d'absence de baisse de taux désormais de la Fed pricée par le marché?
De notre point de vue, c'est probablement un retour à la réalité pour les marchés, à savoir que cette thématique de l'inflation, elle n'est pas terminée, elle n'a pas disparu, et probablement que si on fait le compte des mesures de Trump, on peut argumenter de l'impact économique, c'est assez difficile à quantifier aujourd'hui. Il y a globalement une certitude, c'est que ça risque d'être inflationniste. Les droits de douane, l'immigration, la fiscalité, ça peut effectivement contribuer au fait qu'aujourd'hui, l'inflation, elle se stabilise à des niveaux élevés. Elle a même tendance, sur certains segments, à parfois repartir à la hausse. On apprend ce matin que les prix alimentaires sont attendus à la hausse en 2025 à nouveau, sur des thématiques à nouveau de transition climatique, dirons-nous. Donc, il y a beaucoup de raisons de penser qu'effectivement, cette inflation, elle risque d'être assez persistante. Face à ça, vous avez une Fed aussi qui se pose des questions sur ses derniers cuts.
Oui.
A-t-elle bien fait de couper autant aussi vite? Peut-être qu'elle a des regrets. Et puis, elle a beaucoup d'incertitudes politiques face à elle. Quels vont être les impacts des différentes politiques proposées par le candidat Trump? À quel horizon y verra-t-on plus clair? Probablement beaucoup d'incertitudes qui justifieraient qu'on attende. Il n'y a pas d'urgence aujourd'hui. L'économie américaine se porte bien. Les entreprises se portent bien. Les ménages raisonnablement bien aussi pour l'instant. L'inflation montre des signes de résilience inquiétants. On a un programme économique incertain et potentiellement inflationniste. Il n'y a aucune raison de se précipiter. Donc finalement, est-ce qu'on est à un retour à la normale après une certaine forme d'exubérance du marché qui espérait de nombreuses baisses de taux d'intérêt?
On attendait 200 points de base de baisse de taux, hein. C'était ça. La Fed en a déjà fait 100.
La Fed en a fait 100. On n'est peut-être plus très très loin du neutre, finalement. Le neutre, il a probablement remonté avec une inflation qui est plus structurelle aujourd'hui, qui est liée à des problématiques qui dépassent maintenant le cadre de l'effet Covid temporaire. Ça y est, on sait que maintenant ces problématiques-là sont dissipées. On est sur des problématiques de démondialisation, du renchérissement des coûts de production, de démographie. Ça, c'est probablement des thématiques qui perdureront sur les années à venir. Et dans ces conditions, aller estimer que finalement, les taux sont peut-être pas si mal là où ils sont, c'est un pari raisonnable à faire, et c'est un peu ce que vous dit le marché.
Ah oui.
Vous regardez les taux d'intérêt aux États-Unis depuis maintenant un certain temps, on est dans une bande d'oscillation. Il semble-t-il qu'on ait trouvé une certaine forme d'équilibre.
Eric, comment vous voyez l'évolution des marchés obligataires là, pour cette année 2025? Qu'est-ce qui va driver, qu'est-ce qui va façonner la course des marchés obligataires là?
Il y a plusieurs choses, moi je reprends sur ce qui a été dit. Le point bas du 10 ans américain, c'est 3,60, ouais. Et c'est juste la veille où la Fed baisse de 50 centimes, peut-être un peu rapidement, sinon, bon, il n'y a plus d'inflation, je baisse mes taux, mais la Fed est inquiète, on est la croissance. On fait 3,60, 4,80, presque en ligne droite derrière. Donc l'inflation, ça ne meurt pas facilement, il faut que le marché comprenne bien où on va et ce qui se passe. Alors, on était dans un schéma où la Fed était tranquillement, je fais mon soft lending, l'inflation rentre plus ou moins graduellement à la niche, mais j'ai quand même des taux un peu élevés. Là-dessus, on met du Trump, un peu de volatilité, des mesures inflationnistes. Alors, il faut bien voir les mesures trumpiennes, hein, sont inflationnistes dans un premier temps, mais il y a pas mal d'effets one-off. Et dans un deuxième temps, c'est soit un peu récessif, soit stagflationniste. Mmh. Donc, il faut vraiment les surveiller. Du coup, la Fed, elle est un peu dans le brouillard, sans parler de son indépendance qui sera peut-être questionnée dans l'année qui vient, avant d'être... par le gouvernement en place. Pour nous, elle va se reconcentrer sur ses fondamentaux, sur sa croissance. Vous voyez qu'il y a deux piliers dans la Fed, hein, c'est pas comme la BCE. Elle va regarder croissance et inflation. Alors, on a eu un chiffre à 0,2 au lieu de 0,3, donc ça a détendu tout le monde. C'est vrai qu'aujourd'hui, le marché, dans ses anticipations, c'est quand même pas mal gouré, parce qu'on était trop au-dessous. Enfin, bon,
on tâtonne, enfin, tout le monde tâtonne, hein, j'ai l'impression.
Que c'est donc un peu la vol va continuer, oui, ça c'est le sûr.
D'accord.
C'est vrai que là, quand on se remet au point haut des taux, il y avait presque une petite baisse de prévu. On pense qu'il y a de la place pour en faire deux, pour revenir sur un taux neutre. Ça se débattra entre 2 et 3 en l'état actuel de ce qu'on attend des mesures de Trump. D'accord. Que la Fed, effectivement, je partage le point, elle ne va pas se presser. Enfin, un petit wait and see, on va attendre les 100 premières mesures, si j'ai bien compris, qu'on va voir dans la nuit. Mais il y a encore un peu de resserrement monétaire qui est aujourd'hui dans les cours, ce qui nous fait dire que le Tinos du côté de 4,80, c'est un triple A, ça s'achète un peu les yeux fermés quand même. Sur longue période, il ne faut pas le regarder toutes les 5 minutes, ça sera volatile.
Faut accepter, oui, c'est ça.
Mais,
supporter la volatilité encore de ces
marchés. À l'inverse d'une Europe où effectivement, alors, de notre point de vue, on va avoir une BCE même si nos chers amis allemands de l'école monétariste nous rappellent que l'inflation ne baisse pas si vite que ça, on a quand même des risques qui pèsent sur la croissance via la confiance un peu significatifs et devrait faire au moins ces 4 baisses sans doute au S1. D'accord. Pour atterrir du côté de 2. Ça, c'est dans la courbe, ce qui nous fait dire que la partie longue du 10 ans, là où elle est, embarque à peu près les prix. Un point qui est important à mentionner sur les taux, c'est les volumes d'émissions complètement records. Je crois qu'on ne se rend pas bien compte. On se dirige vers un 100 milliards de crédits sur le premier mois de janvier, record absolu, très bien digéré au demeurant. On se dirige vers 800 milliards nets d'émissions en zone euro. Aux États-Unis, ça va dépendre de ce que va faire Trump. On notera au passage que l'un des plus gros artisans de la baisse du T-Notes, c'est les déclarations de Scott Bessent, le futur impétrant pour être secrétaire du Trésor, qui dit qu'il veut réduire le déficit. Il y a un effet d'offre. Maintenant que les banques centrales n'achètent plus, il faudra bien acheter ce papier. Donc c'est non négligeable. Sans doute peut-être un peu plus de baisse que ce qu'il y a dans la courbe aux US. On est à peu près au prix en Europe. Et en Europe, on aura ce parti intéressant entre la dette d'État, notamment la France, futur simple A, quand même un niveau de rendement de 3,30 qui peut un peu attirer, surtout que ça ne coûte rien en capital pour les assureurs, versus le crédit qui, lui, peut, certaines entreprises en tout cas, être plus perturbées, même si on n'est pas globalement inquiète du tout sur la classe d'actifs, par les mesures
gouvernementales.
Les mesures de Donald Trump.
Ouais, d'accord.
Sur certaines rétorsions, ça peut piquer.
À propos de banque centrale, un mot des cryptos, Alain, je ne sais pas.
Non, c'était génial. Le truc de ce week-end, là, c'était le grand
moment. C'est vrai que c'est... Pourtant, avec Trump, on s'habitue à l'effet de surprise, j'ai envie de dire, ça devient un peu la normalité. Ouais. Mais c'est vrai que là, pour le coup...
J'ai vu un truc qui m'a fait quand même doucement rigoler, c'était... je sais pas qui est-ce qu'il
a... Donc lui a lancé son meme stock, c'est ça?
Voilà, c'est ça.
Donc, je sais même pas comment on définit un meme stock, quoi. Il n'y a rien derrière.
C'était évoqué à 35 milliards. Il me semble avoir vu que c'était monté à 75. Hein.
Alors, ouais, avec Pauline, j'avoue qu'on n'a pas regardé les chiffres peut-être à l'instant.
Attention, Pauline, un peu de rigueur.
Ça bouge très vite. Ça a valu à un moment 35 et peut-être plus. Mais c'est passé par 35. Et donc juste après que Donald Trump ait lancé, sa femme Melania a lancé aussi son même stock juste derrière.
Le même stock du fils. On attend le même stock du neveu. Enfin, on attend le.
Le problème, c'est qu'ils sont nombreux dans la
famille. Ah oui, c'est ça.
J'ai regardé l'arbre.
Enfin, apparemment, le même stock de Mélania a été moins populaire que celui de son mari.
Enfin, ça a capitalisé plusieurs milliards quand même.
Pardon.
Ouais, ça a capitalisé tout de suite plusieurs milliards.
8. Bon, c'est pas mal déjà. Ouais, c'est pas mal.
Je sais pas
ce qui était rigolo. Donc, c'était sur 20 ans. Intel a fait 0.
Mais oui.
Et ça, le même stock, il a fait de 0 à 70 milliards dans le week-end.
Donc on en rit parce qu'il faut en rire ou on en rit pour éviter d'en pleurer, je ne sais pas.
C'est embêtant, je pense que c'est aussi l'idée sous-jacente de Trump derrière ce truc-là, ce qui est un espèce de truc d'ego qui casse un peu l'image de l'homme d'entreprise qui travaille pour les Américains, tout ça. Bon, c'est un peu embêtant. Il ne faudrait pas qu'il y en ait trop des trucs comme ça, quoi. C'est-à-dire que, faut qu'ils arrêtent. Assez rapidement ce genre de choses que ça peut discréditer l'ensemble de
même dans la culture américaine vous pensez que ça peut mal passer à un moment
il y a des limites à un moment donné à tout quand même hein. Et pour revenir aux banques centrales les banques centrales elles ont quand même un peu la banque centrale américaine a quand même commencé à resserrer quand même c'est-à-dire que le bilan de la banque centrale américaine commence à baisser quand même donc c'est pas une hausse des taux mais ça a un petit effet quand même à un moment donné et puis je pense que j'entendais tout à l'heure et je suis assez d'accord avec ça c'est le retour à la réalité c'est-à-dire que je pense que 2025, ça va être le retour à la réalité. Je ne dis pas que c'est mal, forcément. Et je ne dis pas que ça va forcément avoir un effet négatif pour les marchés. Mais il peut y avoir des périodes de remise à plat. Et on est quand même avec des problématiques. Enfin,
il y a des poches ici et là qui se sont peut-être un peu éloignées de la réalité.
Oui, c'est ça. Et puis, c'est évoqué quand même. Les volumes d'émissions, c'est quand même un phénomène assez net, clair et précis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va s'arrêter, quoi. Donc le début d'année, c'est toujours un peu la période où on y va de bon cœur. J'entends aussi souvent dire que comme il y a beaucoup de liquidités, c'est pas très grave, parce que cette liquidité qui est à côté du marché, à un moment donné, va revenir. Mais il faut pas oublier que cette liquidité sert aussi de collatéral à pas mal d'investissements en tout genre. Donc attention, là aussi, retour à la réalité. Pas forcément très long, hein, le carry trade japonais.
On verra. Ils doivent monter les taux cette semaine, le Japon.
Oui, c'est le genre de choses. Quand le retour à la réalité revient, ça peut.
Moi, j'avais en tête un calendrier un peu plus dilué pour la Banque du Japon. J'avais en tête mars, mais finalement, j'ai vu le pricing. Ça va être a priori cette semaine pour une nouvelle hausse de taux de la Banque du Japon. Il nous reste quelques minutes. Petit tour de table sur la politique d'investissement dans le contexte qu'on vient de décrire, Raphaël, sur les marchés de capitaux chez Tikehau. Partant du marché américain, parce que c'est impossible de ne pas être positionné sur le marché américain avec alors peut-être des poches de risque ici et là, comment on navigue dans ce terrain américain et comment on est exposé aux États-Unis aujourd'hui.
Alors, 2025, on va bien s'amuser, je pense qu'on peut tous dire ça. Beaucoup de volatilité, on part sur des valos qui sont effectivement beaucoup renchéris, donc on ne s'attend pas à une année exceptionnelle en termes de millésime comparé à la précédente. En revanche, on pense que les fondamentaux de marché qui ont permis la performance de 2024 sont toujours en place. Du stimulus monétaire et budgétaire, même s'il s'essouffle, une désinflation qui ralentit certes, mais qui reste aujourd'hui d'actualité, et puis surtout une résilience des résultats, de la macro, qui impressionne et qui doit toujours permettre d'avoir des perspectives de performance. En termes d'investissement, nous, on se concentre sur le portage. On parlait de ce nouveau régime de taux. Avoir dans le fonds de portefeuille des expositions à l'obligataire, aller chercher du 5, 6, 7% sur des signatures de qualité, sur aussi des classes d'actifs qui ont une petite prime supplémentaire. On va parler à l'high yield, savamment sélectionné, dirons-nous, les financières, les CLO. Tout ça, c'est des instruments qui vous permettent d'aller construire cette poche de portage. Aujourd'hui, le portage, il est à nouveau légitime dans une allocation. Sur les actions, on est un petit peu plus prudent. Et puis, on pense qu'effectivement, le leadership de la performance va pivoter. Ah. Il était très porté par les USA et la tech. On peut estimer que à niveau de valo actuel, d'une part, et avec cette thématique d'une arrivée de l'administration Trump, qui va être peut-être plus favorable aussi, des thématiques aussi de baisse des taux des banques centrales, certes moins prononcées, mais qui sont réalistes, de déréglementation, tout ça pointe vers un élargissement vers des valeurs plus cycliques, les banques, la value, le small and mid cap. Et puis au-delà des US, toujours un peu dans ce même raisonnement, vers l'Europe. C'est un bon moment pour investir en Europe. C'est pas cher. C'est pas si terrible. C'est un peu ça le message. Peut-être que la sinistrose ambiante est exagérée. En tout cas, peut-être qu'elle est bien reflétée dans les prix. beaucoup des incertitudes qui pèsent sur l'Europe pourraient être en partie levées en 2025.
Le mur des craintes. On va grimper le mur des craintes.
Espérons. En tout cas, il y a beaucoup de choses dans les prix. Et même au-delà d'une solution miracle à tous nos maux, le fait que l'incertitude se dissipe est un facteur positif.
Bien sûr.
On l'a vu pendant les élections US, on va le voir avec le risque politique en Europe et en Allemagne, on va voir avec les annonces de barrières douanières. Aujourd'hui, la négativité est maximale. Et une fois que cette incertitude se dissipera et qu'on sera tous encore vivants, on l'espère, a priori, on pourra repartir sur une marche en avant.
L'état d'esprit des gérants et analystes qui étaient au Forum Odo la semaine dernière à Lyon, je crois qu'il y avait 200 boîtes, enfin, c'est un grand rendez-vous de stock pickers, hein, d'analystes fondamentaux. C'était de dire, pour ceux qui m'en ont parlé, c'était de dire... La surprise, c'est qu'il n'y avait pas de mauvaise surprise supplémentaire dans le discours des boîtes. Et ça, pour l'Europe, ouais, c'est déjà une bonne nouvelle. Eric,
je rebondis sur ce séminaire. Ce qui fait bouger les marchés, c'est la surprise marginale et l'acheteur marginal. Et je rejoins complètement les propos qui ont été faits. Là, en début d'année, on a de quoi faire des portefeuilles. Je rappelle une époque où, hors les actions, point de salut. C'est vrai qu'on a eu un momentum américain qu'on a joué depuis plusieurs mois. Il y a un moment, toutes les bonnes nouvelles de ce que va faire Trump seront dans les cours, et toutes les mauvaises nouvelles de l'Europe, quel numéro de téléphone, on ne sait pas où on est, il n'y a plus personne nulle part, seront aussi dans les cours. Donc il y a cette rebascule des US vers l'Europe, à mon avis, qui est intéressante. Le deuxième point, c'est on a des vrais actifs de portage, on continue d'être payé pour son risque. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'aime bien dans un portefeuille, c'est d'embarquer du risque, mais d'être payé pour, ça n'a pas toujours été le cas. Effectivement... sur le crédit, ça eût été plus rémunérateur, mais avec sélectivité, il y a encore des choses à faire. Et pareil sur les taux gouvernementaux, si jamais il y a quand même des accidents, on est sur des niveaux qu'on anticipait tellement de choses.
La duration sera peut-être un peu moins un ennemi, vous dites, en 2025.
Sur ce début d'année, nous, sur les points hauts qu'on a connus il y a 4 jours, c'est très clairement... Et puis c'est protecteur, tout peut ne pas se passer comme prévu non plus, notamment là où on l'attend le moins, et de la diversification, effectivement, dans des zones qui n'ont pas recollé à l'essor qu'on a eu post-Covid. Les small caps, on en parlait, les émergents, c'est des choses qu'il va falloir commencer à regarder. Alors, sur les émergents, peut-être un peu plus, puis il faut voir ce que va faire Trump. Sur les small caps, il y a quand même un momentum croissance qu'il va falloir garder en zone euro pour pouvoir se l'approprier.
Bon, l'idée d'une reconvergence de ces marchés avec l'exceptionnalisme américain. Alain, 30 secondes,
c'est possible. Pas trop de diversification, je pense. Et garder en tête qu'il faut avoir de la liquidité, parce que si jamais ça venait à bouger, être capable de sortir rapidement, peut-être pas aller se mettre aujourd'hui dans des trucs où on est bloqué 15 ans en attendant et en priant pour que...
Pas obligé de s'investir dans un tunnel de 10 ans tout de suite, là, maintenant. Okay.
Mais bon, restez investis.
Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été là aujourd'hui, en ce jour, premier jour de prise de pouvoir de Donald Trump à la Maison-Blanche, l'investiture de Donald Trump. Aujourd'hui, on continue d'en parler dans un instant. Alain Pitous est avec nous, senior advisor ESG, Raphaël Thuin, Tikehau Capital, et Eric Bertrand, Ophi Invest AM.